1986. À l'école primaire, je n'ai jamais été embêtée. Et j'ai fini par le regretter. La présence de plusieurs de mes frères dans la cour de récréation ou à la sortie des classes dissuadait les garçons de toute approche, par crainte de représailles. Je regardais mes copines devenir princesses de contes de fées, sauvées par des chevaliers qui faisaient semblant de le délivrer en haut de cet escalier donjon au fond de la cour. Leurs joues trahissaient l'émotion des premiers émois. Mince alors, moi aussi j'aurais aimé jouer de résistance alors que je crevais d'envie de me faire enlever. On me privait de cette agitation douce dans ce château trop bien gardé par mes frères, armés de leur âge imposant, tels des dragons puissants. L'année de CM2 me fit prendre conscience de la nécessité de m'affranchir de leur protection, d'abord pour apprendre à me battre seule, ensuite pour goûter à un semblant de liberté. En début de CM1 est arrivé un garçon timide. Il n'avait rien en commun avec les petits mâles idiots de la cour de récré. Réservé, seul, discret, il avait de grands yeux verts toujours un peu écarquillés sur le monde, comme s'il s'en étonnait. Ses cheveux blonds dessinaient des boucles d'ange et il rougissait facilement. J'ai toujours éprouvé un mélange de peine et d'affection pour ceux qui rougissent. De la peine à l'idée qu'ils souffrent de ces joues traîtresses qui ne leur laissent aucune chance de masquer leurs émotions et qu'ils doivent avoir envie d'arracher dans les situations critiques. De la tendresse pour leur grande sensibilité. J'eus peur qu'on le proclame souffre-douleur des récréations. Il n'en fut rien, même si les élèves agités et menaçants n'avaient pas la même tendresse que moi pour sa timidité. Alors, d'où venait qu'on le laisse tranquille? Ses grands yeux? Son allure? Ce qui me fascinait en lui effrayait-il mes camarades et le protégeait-il de leurs bêtises? La solitude qui en résultait ne semblait pas le déranger. Pour attachant qu'il fût, je n'eus jamais le courage de lui imposer ma présence. Encore moins mes mots que je trouvais tout stupides avant de les avoir ne serait-ce qu'imaginés. Une seule fois, il s'approcha de moi dans la cour pour me dire qu'il aimait mes fossettes. J'avais souvent entendu cette petite remarque dans la famille, dans le cercle d'amis de mes parents, parfois même de la bouche d'inconnus dans une salle d'attente ou au cinéma. Jamais elle ne me fit autant d'effet que ce jour-là. Tel un grand seigneur de passage dans une contrée lointaine qui lance un compliment anodin à une simple servante lors d'un banquet. Mes copines passaient leur temps avec les petits chevaliers, elles ne comprenaient pas que j'en reste là, que je ne lui tourne pas plus autour dans la cour. Je les trouvais futiles. J'avais eu le compliment d'un seigneur, c'était suffisant. J'en fus comblée pour le reste de l'année. Je ne savais pas si j'étais amoureuse, je suppose que oui. Et je pense encore à lui aujourd'hui, presque 10 ans après. Qu'est-il devenu? Vient-il de passer son bac, lui aussi? Entrera-t-il dans une case? En couple, père de famille, les clés de la maison dans la poche de sa veste, un chien au bout d'une laisse. Est-il retourné dans les pages d'un album de contes de fées? Peut-être inventera-t-il un modèle inexistant. Peut-être n'était-il pas tout à fait humain. L'école primaire constitua pour moi un espace étouffant. Je fondais tous mes espoirs sur le collège, où je m'étais promis d'aborder mon seigneur aux joues rouges et aux boucles blondes si je le croisais dans la cour. Je me réjouis donc, durant toutes les vacances d'été, d'entrer enfin en 6e. À mes yeux, le summum de l'émancipation. Des centaines d'élèves, des dizaines de salles de classe, des endroits où se cacher du regard des autres, des horaires libres et la capacité de s'échapper en ville quand un cours sautait en fin de journée et qu'il fallait attendre le quart de ramassage. L'entrée au collège promettait une libération, une aventure, une bataille, à l'assaut de mes propres barrières. Ma prise de la Bastille à moi. Et pour la deuxième fois depuis que nous avions quitté la petite enfance, notre père nous annonça subitement qu'il allait être attaché à un autre régiment, dans un coin de France dont nous ignorions tout, nous faisant perdre des amoureuses pour les aînés, des repères pour les cadets. Et moi, l'espoir de retrouver le chevalier aux grands yeux verts écarquillés. Ce déracinement social régulier participa sans doute à la cohésion de la fratrie et au besoin de nous tenir chauds. Mais il opéra en chacun de nous une difficulté à s'attacher. En attendant, ma grand-mère me réconfortait, persuadée que quelques biscuits maison accompagnés d'un chocolat chaud constituaient un remède à tout. Cela fonctionne d'ailleurs au-delà de l'enfance, car elle me le propose encore aujourd'hui et ça me fait du bien. Elle me prépara donc à ce nouveau défi. Elle n'était pas inquiète pour moi. Depuis toute petite, je bravais les interdits et je ne me faisais jamais attraper. Comme disait mamie, j'avais ce talent de comédienne, assorti d'un sourire enjôleur qui me sortait de certaines situations délicates avec brio. Elle aimait beaucoup cette expression, « avec brio ». J'avais 6 ans quand elle l'employa pour la première fois, et je crus qu'elle parlait alors d'un ami italien. À la fin du mois d'août, quelques jours avant l'entrée en 6e, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle me dit, l'air de rien, une phrase qui me bouleversa. « Tu es une petite fille qui vit avec brio, ne perds jamais cela. » Je ne sais pas si elle pourrait encore en dire autant.